VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 24 juin 2015.
Le président congolais Joseph Kabila saisit la justice pour corruption au sein de l'appareil de l'État.
Il y a une érosion sérieuse des moyens financiers de l'État à cause de ce phénomène, un retard dans le développement de ce pays.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.
La Côte d'Ivoire va bientôt rapatrier les réfugiés qui ont fui les violences ethniques et électorales il y a 4 ans.
On évalue le nombre à peu près 60 000 personnes. Donc, ils sont partis effectivement à la faveur de la crise électorale qu'avait connue la Côte d'Ivoire en 2010-2011.
Mohamed Askia Touré, représentant du HCR en Côte d'Ivoire.
Ebola en Guinée, ce n'est pas terminé. Médecins sans frontières dit que la situation doit encore être considérée comme cas d'urgence.
On a totalisé 12 cas pour tout le pays. La semaine auparavant, il y avait 10 cas et 12 cas la semaine avant.
Anna Halford, coordonnatrice à MSF.
Au lendemain de l'accord de paix avec les mouvements de l'Azawad, Bamako appelle l'ONU à l'aide pour chasser les islamistes et trafiquants de drogue du nord du Mali.
Selon Wikileaks, les 3 derniers présidents français ont été espionnés par l'Agence de sécurité nationale des États-Unis.
Et la NSA a vite réagi, disant que l'administration Obama ne procède pas à la surveillance à l'étranger, sauf en cas d'objectifs de sécurité spécifiques.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici les informations.
Le président congolais Joseph Kabila a saisi la justice pour corruption et détournement d'argent public dans quasiment tout l'appareil gestionnaire de l'État. La plainte première en la matière a été remise au parquet hier par son conseiller spécial pour la bonne gouvernance, Luzolo Bambilesa. Le mois dernier, l'ex-ministre de la Justice avait déclaré que la corruption était endémique et dénoncé une fraude fiscale de 15 milliards de dollars, alors que le budget annuel de la RDC est de 8 milliards. Eddy Issango a joint Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.
Il s'agit du conseiller spécial du président de la République en charge de la lutte contre la corruption qui a déposé auprès du procureur général de la République un certain nombre de dossiers relatifs à la corruption. Étant donné qu'il y a une érosion sérieuse des moyens financiers de l'État à cause de ce phénomène, un retard dans le développement de ce pays, le parquet général de la République va entreprendre tous les devoirs d'instruction, entendre les personnes intéressées sur l'identité desquelles rien n'a été dit à cause du respect du principe de la présomption d'innocence qui fait que seul le parquet pourra communiquer ou rendre public l'identité des personnes concernées.
La RDC est 154e pays sur la liste des Transparency International. Pourquoi avoir attendu si longtemps?
Ce qui vient d'être fait aujourd'hui est un pas de géant, toujours dans cette même bonne direction. Le président n'a pas institué un conseiller spécial, tout un service chargé de la lutte contre la corruption pour s'amuser. Il l'a fait pour mettre fin à ce fléau.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
Le gouvernement du Mali a demandé à l'ONU de l'aider à restaurer son autorité dans le nord du pays où opèrent des groupes islamistes et à lutter contre le trafic de drogue. Bagassi Koura.
La priorité des priorités doit être l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays et la fourniture des services sociaux de base, a déclaré devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le mandat de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, doit être renouvelé fin juin et le ministre Diop a longuement détaillé quelles devraient être les tâches prioritaires des quelques 10 000 casques bleus, appelant le Conseil à autoriser de nouveau la MINUSMA à aider le gouvernement malien à stabiliser les principales agglomérations, en particulier dans le nord du pays. La MINUSMA, en but aux attaques de groupes armés islamistes, est une des missions de l'ONU les plus exposées et son commandant a reconnu il y a quelques jours devant le Conseil qu'elle n'était pas à la hauteur de la tâche. Le Conseil a souligné que le ministre doit exiger que seules les forces armées maliennes disposent du droit et de la légitimité d'occuper toute localité du territoire national. Il a aussi jugé absolument essentiel qu'avec l'aide de l'ONU, il y ait une initiative forte qui émerge pour prendre en charge la lutte contre le trafic de drogue. M. Diop a réaffirmé la détermination de Bamako à honorer tous les engagements qui lui incombent dans cet accord.
Et l'envoyé spécial des Nations Unies au Mali a demandé au Conseil de sécurité hier de doter le pays d'un dividende de la paix. À la suite de l'accord de paix de la semaine dernière avec les mouvements de la Zawad, Monguy Hamdi a appelé le Conseil à approuver rapidement des fonds pour l'eau, l'électricité et les écoles. Il a souligné que le rétablissement des services sociaux de base est crucial, tandis que des milliers de réfugiés commencent à rentrer chez eux. La reconstruction sera plus difficile que la destruction, a déclaré l'ONUsien, ajoutant que la taille, l'environnement géographique, le climat rude et une infrastructure extrêmement pauvre ou inexistante dans le nord du Mali posent des défis importants pour la mission de maintien de la paix des Nations Unies.
Et la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, fait état de nouvelles accusations d'abus sexuels sur des enfants par des casques bleus. Des détails avec Michel Joseph.
Ces allégations d'abus sexuels par des soldats onusiens contre des enfants de la rue à Bangui ont été portées à la connaissance de la MINUSCA le 19 juin, a indiqué hier Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU. Les crimes pourraient remonter jusqu'à 2014, a-t-il dit, ajoutant que le pays dont le contingent est mis en cause a été immédiatement notifié. Selon le porte-parole onusien, une enquête a été ouverte et des soins médicaux sont prodigués aux victimes. En attendant les conclusions de l'enquête en cours, Stéphane Dujarric a dit que l'important, c'est que l'ONU réagisse promptement, qu'elle assiste les victimes et appelle les pays membres à assumer leurs responsabilités quant aux poursuites judiciaires contre les coupables. L'ONU avait été critiquée pour sa gestion des précédents cas de viol d'enfants par des soldats français et africains qui n'étaient pas encore sous son drapeau en RCA.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Suite à la dernière révélation de Wikileaks, la Maison-Blanche dit ne pas espionner le président français François Hollande. Le porte-parole de la NSA, Ned Price, a déclaré que l'administration Obama ne procède pas à la surveillance à l'étranger, sauf s'il y a un objectif de sécurité nationale spécifique et validé. Une norme, dit-il, appliquée aux dirigeants du monde comme aux citoyens ordinaires. Le site web de Wikileaks a publié mardi des documents qui, selon l'organisation, montre que l'Agence de sécurité nationale américaine a espionné les trois derniers présidents français. Il n'y a pas eu de confirmation immédiate de l'exactitude des documents publiés en collaboration avec le quotidien français Libération et le site d'investigation Mediapart. Selon les supposés documents américains classifiés, les États-Unis auraient mis sur écoute les anciens présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et l'actuel chef de l'État français François Hollande. Un conseiller de la présidence française a dit que M. Hollande convoquerait aujourd'hui son conseil de la défense pour évaluer ces informations. Wikileaks a rapporté auparavant que la NSA avait mis sur écoute téléphonique la ligne privée de la chancelière allemande Angela Merkel, ce qui a déclenché un scandale politique en Allemagne et incité une enquête officielle sur l'étendue de la coopération des services de renseignement allemands avec les États-Unis.
Les États-Unis accusent la Chine d'avoir commandité des cyberattaques, alors que les autorités de Washington continuent d'enquêter sur un piratage informatique massif des données de millions de fonctionnaires fédéraux. Nous restons profondément préoccupés par le piratage informatique parrainé par le gouvernement chinois, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor, Jack Lew, lors de la deuxième journée de discussion de haut niveau sur la sécurité et l'économie avec des responsables chinois.
Les milices kurdes des unités de protection du peuple continuent leur avancée en Syrie face au groupe État islamique, soutenu par des frappes aériennes de la coalition sous commandement américain et certaines factions rebelles. Les combattants kurdes disent qu'ils ont repris la ville d'Ain Issa mardi, quelques heures après avoir pris le contrôle de la base militaire clé de la brigade 93 dans le nord de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, les djihadistes se sont totalement retirés de la zone. Cette ville stratégique, située entre Asaka et Alep, a été libérée, a dit à la voix de l'Amérique un porte-parole des forces kurdes Redur Xelil, ajoutant qu'ils ont également libéré des dizaines de villages environnants.
Ici aux États-Unis, la chasse à l'homme s'intensifie contre Richard Matt et David Sweat, deux meurtriers condamnés qui ont réussi une évasion spectaculaire dans l'État de New York. Les autorités ont de nouvelles pistes, nous dit Lionel Gaïma.
En effet, on a trouvé des traces d'ADN de l'un d'entre eux dans une cabane de chasse à quelques 60 km de la prison Clinton de Dannemora, dans l'État de New York, d'où ils se sont échappés le 6 juin dernier. Il est vrai que depuis le début de l'enquête, plus de 2000 pistes ont été étudiées. Ce mardi, l'opération a pris de l'ampleur. Elle implique maintenant plus d'un millier d'agents de l'ordre, policiers, locaux et fédéraux, gardes-chasse, membres du personnel pénitentiaire, chiens dressés et des hélicoptères. Selon la presse américaine, un des deux fugitifs serait pieds nus alors qu'il fuyait de la cabane où ils auraient été repérés quelques heures plus tôt. Richard Matt, 49 ans, et David Sweat, 35 ans, sont donc toujours en cavale, plus de deux semaines après leur fuite de cette prison de haute sécurité. Ils font désormais partie de 15 fugitifs le plus recherchés par la police américaine et les autorités ont offert une prime de $100,000 pour toute information permettant leur arrestation.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco vous est présentée par Camille Grosdidier.
Les carences alimentaires dont souffrent les enfants du Burkina Faso coûtent environ 8% du produit intérieur brut par an à ce pays sahélien, a révélé une étude rendue publique mardi. L'économie burkinabé perd chaque année près de 409 milliards de francs CFA du fait des effets de la sous-nutrition infantile, soit 7,7% du PIB national, affirme ce rapport sur le coût de la faim, dirigé par l'Union africaine et qui est cité ici par l'agence France Presse. Le gouvernement du Bénin a décidé lundi de dissoudre l'inspection générale de l'État pour la faire remplacer par un autre organe qui disposera d'une autonomie financière et d'une indépendance pour renforcer la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption au Bénin, signalent les médias. Une décision prise suite à une enquête diagnostique sur la corruption et la gouvernance. L'enquête a montré que les problèmes de gouvernance et de corruption finissent parfois par décourager les usagers béninois. Et puis, selon les statistiques de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, la CNUSED, les investissements directs étrangers ont augmenté de 9% l'an passé. En Afrique, les investissements entre États sont également en hausse, constate Axel Giroux de la CNUSED.
Ce que l'on peut voir, c'est effectivement un accroissement de l'investissement intra-Afrique. Donc, il y a certains pays investisseurs, tels que l'Afrique du Sud, tels que le Nigeria, qui augmentent leur investissement dans les pays voisins sur le continent. Cet investissement a lieu dans un nombre d'industries, aussi bien dans les industries de services que de l'industrie manufacturière.
Axel Giroux de la CNUSED, elle était jointe à Genève.
Merci Camille pour la Minute Éco. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Alors la Coupe du Monde féminine au Canada, ça passe pour les Américaines.
Oui, l'équipe des États-Unis s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi en battant la Colombie 2-0 à Edmonton. Les buts américains signés de Morgan à la 53e minute et Lloyd sur penalty à la 66e minute. Les Américaines affronteront la Chine vendredi à Ottawa pour une place dans le dernier carré. Autre qualification, celle de l'Angleterre qui a dominé la Norvège 2-1 à Ottawa. La Norvège avait pourtant ouvert le score par Gulbrandsen sur un corner à la 54e minute, mais Houghton à la 61e puis Browns à la 76e d'une superbe frappe ont donné l'avantage et la victoire aux Anglaises qui affronteront le pays organisateur, le Canada. Ce sera samedi à Vancouver pour une place en demi-finale.
Football côté justice.
La police italienne a arrêté 7 personnes en lien avec une affaire de match truqué pour aider le club de Serie B de Catane à éviter la relégation. Le président du club de Catane, Antonio Pulvirenti, son vice-président Pablo Constantino et l'ex-directeur sportif Daniele Delicari ont été assignés à résidence ainsi que 2 agents et 2 directeurs de sites de Paris en ligne.
Paris est en lice pour organiser les Jeux Olympiques de 2024.
La capitale française a officiellement annoncé mardi sa candidature par la voix de plusieurs champions olympiques français réunis à Paris au siège du Comité olympique français. Simultanément, les sportifs ont envoyé le hashtag Paris 2024 sur Twitter, alors que Paris a rejoint ainsi les candidats déjà déclarés pour ces Jeux Olympiques d'été 2024, Boston, Hambourg et Rome. La décision finale sera prise à l'été 2017.
Et l'Afrique est à l'honneur lors du prochain Tour de France.
Oui, 5 coureurs africains feront partie du groupe retenu pour la Grande Boucle par l'équipe sud-africaine MTN Kubeka, 2 Érythréens, Merawi Kudus et Daniel Tekleaimi Manot, et 3 Sud-Africains, Louis Menchech et les frères Jans van Rensburg, 2 autres coureurs africains, l'Érythréen Nathanael Beran et l'Algérien Youssef Regigui seront les remplaçants du groupe.
Merci Nicolas pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Lutte contre la corruption en RDC. Le président Joseph Kabila a saisi la justice pour des cas de corruption des gestionnaires de l'État. Cette première plainte en la matière a été déposée mardi par son conseiller spécial pour la bonne gouvernance, l'ancien ministre de la Justice, Luzolo Bambilesa, nommé à ce poste en mars dernier. Au micro d'Eddy Issango, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.
Il s'agit du conseiller spécial du président de la République en charge de la lutte contre la corruption qui a déposé auprès du procureur général de la République un certain nombre de dossiers relatifs à la corruption. Étant donné qu'il y a une érosion sérieuse des moyens financiers de l'État à cause de ce phénomène, un retard dans le développement de ce pays, le parquet général de la République va entreprendre tous les devoirs d'instruction, entendre les personnes intéressées sur l'identité desquelles rien n'a été dit à cause du respect du principe de la présomption d'innocence qui fait que seul le parquet pourra communiquer ou rendre public l'identité des personnes concernées.
C'est sur base des dénonciations que cette plainte a été déposée. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques cas qui prévalent dans ces accusations ou dénonciations?
Les dénonciations ont été faites. Elles ont été auprès de la présidence de la République qui a transmis le dossier après avoir vérifié la pertinence des dénonciations au parquet général de la République. Et le gouvernement n'a pas qualité ni compétence pour pouvoir dévoiler le contenu d'un dossier qui est en instruction préjudicielle.
On parle à ce moment-ci du dialogue, des concertations en vue de ces dialogues-là. Est-ce que cette plainte ne va pas à l'encontre de l'esprit du dialogue présentement?
Je ne sais pas si on vous a fait croire que le dialogue c'est pour aider les mauvais gestionnaires à s'en sortir. Je pense que le dialogue c'est plutôt pour soutenir des processus apaisés en ce qui concerne les 7 processus électoraux que nous attendons en 2015 et en 2016.
Est-ce que ces accusations concernent seulement les gens qui sont hors du camp présidentiel ou même dans les sillages du président de la République qui, selon l'opposition, sont aussi pointés du doigt?
Il s'agit de dénonciations qui ont été faites au conseiller spécial du président dans la lutte contre la corruption qui a déposé le dossier auprès du parquet. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire qui sont concernés et s'ils appartiennent au camp de la majorité présidentielle ou au camp de l'opposition.
Aujourd'hui, la RDC est 154e pays sur la liste des Transparency International. Pourquoi avoir attendu si longtemps?
Ce qui vient d'être fait aujourd'hui est un pas de géant, toujours dans cette même bonne direction. Le président n'a pas institué un conseiller spécial, tout un service chargé de la lutte contre la corruption pour s'amuser. Il l'a fait pour mettre fin à ce fléau.
C'était le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
La Côte d'Ivoire a annoncé la reprise imminente de rapatriement de réfugiés ivoiriens qui sont dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU sera la cheville ouvrière de cette opération. Jean-Roger Bion a joint Mohamed Askia Touré, le représentant du HCR en Côte d'Ivoire.
Effectivement, le gouvernement ivoirien a donné son feu vert pour le rapatriement des réfugiés ivoiriens qui sont encore dans les pays d'exil et qui sont surtout dans la sous-région, à savoir le Libéria, le Ghana, le Togo et la Guinée. Donc, on évalue le nombre à peu près 60 000 personnes qui sont parties effectivement à la faveur de la crise électorale qu'avait connue la Côte d'Ivoire en 2010-2011.
Il y avait jusque-là un blocage. Est-ce que les blocages sont levés?
Effectivement, le blocage qui avait empêché le retour de ces réfugiés ivoiriens était lié à la crise Ebola. Donc, la crise Ebola Hezbollah, effectivement, qui sévit dans la sous-région depuis plus d'un an, a effectivement été un frein pour le rapatriement de ces derniers. Mais à partir du 9 mai 2015, Hezbollah a été déclaré vaincu au Libéria, donc c'est ce qui explique le déblocage de la situation et la décision du gouvernement ivoirien de permettre le retour le plus rapidement possible de ces réfugiés au Libéria.
Alors, parmi ces réfugiés, il y avait des réfugiés politiques. Les obstacles politiques sont-ils levés pour le retour de ces personnes?
Bien entendu, le rapatriement est ouvert à tous les réfugiés ivoiriens, quel que soit leur appartenance politique, leur appartenance ethnique. Je dis que c'est un blocage qui n'existe pas. Donc, toute personne qui se sent l'envie de revenir dans son pays d'origine peut se prévaloir de ce droit. Et cela se fait effectivement sous les auspices du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec le pays d'origine et le pays d'origine.
Y a-t-il des mesures prises pour le succès de l'opération, M. Touré?
Bien entendu, parce que tout simplement, nous estimons que le rapatriement n'est pas juste une opération logistique. Donc, le rapatriement se fait sous les auspices du HR. Donc, nous mettons en place toutes les mesures incitatives pour permettre à ce que ce retour soit durable, à savoir des activités génératrices de revenus, à savoir la rééducation des centres sociaux, des infrastructures sociaux de base, pour permettre à toutes ces personnes-là de revenir et que ce retour soit durable. Donc, et à côté de cela, il y a aussi donné à ces réfugiés un pécule d'argent et ainsi que des rations alimentaires pour leur permettre de recommencer une autre vie sur leur terre d'origine.
Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y avait un problème terrien. Est-il réglé?
Ben, les problèmes terriens, les problèmes fonciers en Côte d'Ivoire sont toujours là. Donc, effectivement, le départ de ces réfugiés a souvent entraîné l'occupation de leur terre par d'autres individus. Donc, le retour, quand il se fait aussi par des mesures d'accompagnement. Donc, le HR est aussi là avec les autorités ivoiriennes pour savoir comment régler ces problèmes fonciers qui subviennent quand le départ a été long. Donc, c'est quelque chose qui est toujours permanent dans le retour.
Le représentant du HCR en Côte d'Ivoire, Mohamed Daskia Touré, était joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Épidémie d'Ebola, le virus n'est toujours pas éradiqué en Guinée. L'urgence sanitaire a été prorogée jusqu'à la fin du mois de juin en raison de la persistance de l'épidémie. Pour faire le point, Claire Morin-Jiboura joint Anna Alford, coordinatrice à Médecins sans frontières.
Comme toujours avec l'Ebola, les histoires sont toujours un peu plus nuancées qu'il est facile de présenter. Actuellement, on observe sur la totalité du territoire un plateau dans le nombre des cas. C'est-à-dire qu'à la dernière semaine épidémiologique, à savoir la semaine 25, on a totalisé 12 cas pour tout le pays. La semaine auparavant, il y avait, sauf abus de ma part, il y avait 10 cas et 12 cas la semaine avant. Donc on n'est pas en train d'observer ni une recrudescence, ni une baisse dans le nombre des cas. Par contre, nous voyons qu'il y a des sous-zones du pays, les régions ou bien les préfectures, où il y a des flambées par rapport aux autres préfectures. Donc le total reste plus ou moins le même, mais les foyers, ça change.
Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur le terrain?
Les problématiques autour d'un bon recensement des contacts et le niveau de connaissance que nous avons des chaînes de transmission de la maladie. Tant que nous n'avons pas des connaissances à peu près bien sur les traînes de transmission, on ne peut pas dire que l'épidémie soit sous contrôle et on n'est pas encore arrivé.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu du mieux, que les populations ont été sensibilisées et qu'aujourd'hui elles font plus attention, notamment si quelqu'un est malade?
Je crois qu'il y a parfois une distance entre les informations dont la population a besoin et l'information qui est donnée. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à bien communiquer les priorités auprès de la population, notamment sur les comportements à avoir en cas de maladie, sur les dispositions qui sont là pour s'il y a quelqu'un qui est malade ou qui est récemment mort. Le message, c'est vraiment, il y a beaucoup d'efforts, il ne faut absolument pas baisser les bras ni changer la manière d'aborder la chose. Même si le nombre des cas reste statico pour l'instant, ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus en épidémie, on l'est toujours et on doit continuer à l'aborder cela comme si c'est une urgence.
Anne Alford, coordonnatrice Ebola pour la Guinée à Médecins sans frontières.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Les autorités rwandaises ont vivement contesté l'arrestation à Londres d'Emmanuel Karenzi Karake, chef des services de renseignement de Kigali. La ministre des Affaires étrangères rwandaise, Louise Mushikiwabo, l'a qualifiée d'inacceptable sur son compte Twitter. Pour une analyse sur cette question, Eddy Isango a joint le chercheur Hugo Sada de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Il y a une procédure, il y a eu une demande d'extradition, il y a des faits qui font l'objet d'une enquête depuis de longues années. Donc je crois que c'est dans ce cadre qu'il faut situer le problème. Il ne faut pas le situer par rapport à la situation particulière au Rwanda.
Les autorités rwandaises ont réagi en qualifiant d'horreur, d'inacceptable cette arrestation et même d'avilissante cette solidarité qualifiée des pré-génocidaires des Occidentaux. Comment voyez-vous cela ?
C'est un langage que je trouve un peu excessif de la part des autorités du Rwanda. Maintenant, c'est normal que cette rhétorique politique soit utilisé par les autorités rwandaises, mais la justice pénale internationale, elle obéit à des règles de droit. Donc si le Rwanda estime que cette arrestation ne repose pas sur des fondements avérés, je pense que l'intéressé aura droit à une procédure judiciaire équitable et que si la preuve est faite de son innocence, pour les faits qui lui sont reprochés, eh ben, il n'y aura pas de suite. La procédure judiciaire engagée par les autorités espagnoles est liée à des faits qui concernent des ressortissants espagnols. Donc il n'y a aucune raison, motif judiciaire que la justice espagnole engage une procédure judiciaire pour crime contre l'humanité ou crime de guerre.
L'arrestation de M. Emmanuel Karenzi Karake, qui était en fait le chef des services des renseignements rwandais, ne fragilise-t-elle pas les régimes de Paul Kagame?
Je ne crois pas que le débat soit là et je ne crois pas que cette arrestation, elle a pour objectif ou pour arrière-pensée d'affaiblir ou de menacer le pouvoir de Paul Kagame. Je crois qu'elle obéit au droit, elle obéit aux droits des victimes, mais qu'elle n'a pas pour objectif d'aller déstabiliser d'une manière ou d'une autre le régime rwandais.
Hugo Sada, conseiller Afrique de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Les autorités maliennes ont signé récemment un contrat de concession pour la réalisation du barrage hydroélectrique de Kenyé à Tienfala. Le projet d'une valeur de 72 milliards de francs CFA est financé par la Banque mondiale. Notre correspondant Kassim Traoré à Bamako nous en dit plus.
Un nouveau barrage hydroélectrique sera construit au Mali sur le fleuve Niger, dans la localité de Kenyé, située à quelques 35 km de la capitale malienne. Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, tout sera mis en œuvre pour la bonne exécution de ce projet. Mamadou Frankali Keita.
Centrale hydroélectrique au fil de l'eau, elle sera équipée de trois groupes totalisant une puissance installée de 42 MW, dont 34,5 MW garantie et un productible moyen de 188 GWh par an. Elle est destinée à être raccordée au système électrique interconnecté du Mali, dont elle devra contribuer à la baisse du coût de production de l'électricité.
Avec une puissance installée de 42 MW, cet aménagement hydroélectrique doit relever les défis énergétiques au Mali. Marc Alebora, directeur du groupe Aéronovic.
Ce barrage hydroélectrique produira une énergie renouvelable au profit des populations maliennes, correspondant à la consommation annuelle moyenne de 175 000 foyers. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de contribuer à travers ce projet à la politique nationale du renforcement des infrastructures de la République du Mali.
La signature de ce contrat de cession est le couronnement de plusieurs années de travail entre le ministère de l'Énergie et de l'Eau du Mali et IFES, International Finance Corporation, membre du groupe Banque Mondiale, leader dans le financement d'énergie renouvelable dans les pays émergents. Alain Ebolizé, responsable mondial de IFES.
Et je crois qu'à travers le projet Kenyé, nous avons déjà mobilisé une société importante comme le groupe Eranov, mais également nous apporterons d'autres financiers qui travailleront à nos côtés avec le gouvernement du Mali pour financer ce projet selon la formule des partenariats publics-privés. Donc aujourd'hui, nous saluons cette réalisation à travers la signature des contrats de concession, mais nous espérons que les choses vont s'accélérer encore pour qu'on puisse commencer la construction le plus vite possible et qu'en fait, on puisse délivrer l'énergie très vite aux consommateurs et aux entreprises maliennes.
Le Mali apportera sa part dans la construction de ce nouveau barrage. Mamadou Igor Diarra, ministre malien des Finances et de l'Économie.
La consommation énergétique globale dans notre pays est bien déséquilibrée, laissant très peu de place souvent aux énergies renouvelables. C'est pourquoi c'est le potentiel énergétique hydroélectrique qui est estimé effectivement à plus de 1000 MW qui sera valorisé davantage.
Les travaux de cette nouvelle infrastructure hydroélectrique démarreront en 2016. La mise en service de la centrale est prévue en 2020. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, secondée par John Ellison. À la console, avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Bon mercredi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.